1989, première tournée des Enfoirés sur la scène Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Véronique Sanson, Eddy Mitchell et même le plus à gauche des chanteurs français, Michel Sardou. C'est 8 ans plus tard que notre invité va rejoindre la bande et devenir une Enfoirée en chef. Bonjour Zazie.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir dans Zoom Zoom cet après-midi. Alors Zazie, chanteuse, auteure, compositrice, femme engagée évidemment avec les Restos du Cœur, on va en parler. Vous participez au concert des Enfoirés tous les ans depuis 1997. On va revenir sur cette aventure avec vous. Mais déjà, revenons au commencement. Qui vous a proposé à vous de rejoindre un jour les Enfoirés et pourquoi est-ce que vous avez dit oui ?
Jean-Jacques Goldman, je crois. Mmh. Enfin, pas en personne. Hein. Il ne m'a pas appelé en bonjour, c'est Jean-Jacques.
Ah oui, ça aurait été. Non, donc c'est
mais
de sa part.
En fait, il y avait un truc qui était sans état d'âme par rapport aux Enfoirés, c'est-à-dire. Les gens qui commencent à remplir des salles, c'est pas mal qu'ils viennent, enfin qu'on leur fasse la demande des Enfoirés, puisque l'idée c'est quand même de faire des sous et de se marrer. Donc vraisemblablement, je correspondais aux deux critères. Et voilà quoi. Donc la première année, j'étais comme ça, j'avais vraiment peur. Et puis en fait, on se rend compte que c'est vraiment, il y a un esprit collectif de dingue, c'est vraiment une exception française en fait, ce truc-là quand même. Il n'y a pas, même aux États-Unis, il n'y a pas de récurrence sur un truc qui est depuis tant d'années, depuis 89. Quoi.
Est-ce que ça dit quelque chose de l'ego des chanteurs français, peut-être moindre que ceux des chanteurs américains, des stars qui peut-être veulent bien se réunir une fois pour une cause, mais peut-être pas tous les ans non plus. Est-ce qu'en France, on est plus cool par rapport à ça ?
Non.
Parfait.
Voilà, une autre question. Non, on n'est pas plus cool. Par contre, il y a des statuts qui sont intéressants et qui sont peut-être... C'est vraiment l'exception française. Quoi. Il y a un petit côté gaulois dans les Enfoirés, à savoir que très rapidement... La prod, j'ose même pas dire ça, mais c'est quand même la production, que ce soit Anne-Marc Assus ou les gens qui ont fait l'émission, y compris Jean-Jacques au début, on dit ça suffit, insupportable, on veut plus les managers, on veut plus les agents, on veut plus tout ça. C'est-à-dire que les artistes entre eux sont des petits êtres narcissiques, mais un peu fragiles aussi, et beaucoup plus rigolos quand ils sont tout seuls qu'avec tout le...
C'est l'encadrement qui fait souvent les égos ou les guerres d'égos.
Donc je pense que si ça n'a pas lieu aux États-Unis, c'est plutôt pour ça. C'est parce que les entourages, il y a marqué sous contrat qu'il ne doit pas dire un mot sans avoir 50 personnes autour de lui. Pareil pour les costumes. Quand vous avez un stylisme pour faire une télé, non, ça va pas, non, ça je m'en... Mais là, comment vous dire
là,
que
vous
quand
libre.
Vous avez une armure du Moyen-Âge...
C'est la suite de mon émission.
Voilà.
Oui, on va en parler. 1989, la meilleure tournée des Enfoirés, selon Michel Sardou, qui a décrété qu'il n'y participerait plus. Une fois, ils m'ont déguisé en cosmonaute. Stop, a déclaré Michel. Zazie, elle, continue de se déguiser en tout et n'importe quoi dès qu'on lui demande. Une fois, elle avait même chanté, vous l'avez dit, avec une armure de chevalier du XVIIe siècle. À la suite de cette prestation, Philippe de Villiers l'avait contacté pour lui proposer de participer à un très beau tableau au parc du Puy du Fou. Zazie, comment vous avez fait pour chanter avec 60 kilos de ferraille sur le dos ?
C'est une catastrophe nucléaire, parce qu'ils n'avaient pas à mesurer. Alors déjà, c'est le temps pour la mettre. Parce que c'était une vraie armure.
Mais oui, on voit.
Du vrai Moyen-Âge.
Ça ne faisait pas de toc.
Bon, une fois qu'elle est mise, donc je suis un culbuto, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout que je perde l'équilibre. J'avance dans le couloir et là, je vois tout le monde qui est mort de rire. Pourquoi ? Ça fait un potin monstrueux. Et cling-gling, cling-gling, dès que je fais un pas. Donc, j'avais quelques déplacements sur cette scène. Plus, que si c'est une vraie armure, il y a un truc, vous voyez, une espèce
de visière
qui tombait. Essayer de chanter avec un micro et un truc qui sonne métallique. Je me souviens, il y avait Patrick Chiori à côté qui me regardait, qui n'arrivait pas à chanter, quoi, parce qu'à chaque fois que je me déplaçais, gling, gling, on entendait partout, c'est-à-dire que c'était là. Voilà. Mais en même temps, c'est un bon fou rire. Quoi.
Zoom Zoom Back spécial 1989, première tournée des Enfoirés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen. 2 heures pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire. Et aujourd'hui, vendredi oblige, on passe en mode Zoom Zoom Back. Direction une année marquante de l'histoire, en l'occurrence 1989. Une année importante pour moi, puisque cet été-là, mon corps changeait. Oula. Sur TF1, la lambada et son rythme excitant passaient en boucle. Et sur Fun Radio, le doc avait beau dire que ce n'était pas sale, moi je trouvais quand même ça pas très propre d'embrasser une fille avec la langue. Il faut dire que cette année-là, les femmes s'étaient liguées pour semer la pagaille dans mon esprit, entre autres, puisque Mylène Farmer chantait...
Ah oui, ça n'aide pas pour l'adolescence.
Ah oui.
Dans un clip où l'apparition fugace de ses fesses devait décider de mon orientation sexuelle à jamais. Heureusement, 1989, c'est aussi un grand cru pour la chanson à texte, dont François Valéry restera un des éternels piliers.
Mais je l'aimais bien, moi, cette chanson.
On l'aime tous. Aimons-nous vivants qui figure aujourd'hui encore en 2025 dans la playlist Spotify Hot and New de Quentin Luy.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais 1989, c'est aussi bien sûr les larmes de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui vivait alors son premier chagrin d'amour. Lâchement plaqué par Hélène Tapineau, sa camarade de 3ème B, il passait de longues heures
seul sur le sable, les yeux dans l'eau.
Oui, seul sur le sable, les yeux dans l'eau, ce qui était d'autant plus triste que c'était le sable et l'eau de la base de loisirs de Pont-au-Combo, en Seine-et-Marne. M'en fous, aujourd'hui qu'elle a dû épouser un expert comptable, elle s'en mord les doigts, la Tapineau. Elle aurait pu être avec une star du showbiz. Persifle en résie. Cyril, visiblement pas tout à fait remis de cette trahison.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Alors Zazie, on va revenir sur la première tournée des Enfoirés et toutes celles qui ont suivi. Juste le temps de saluer mes Enfoirés à moi, à commencer par celle qui attend toujours ce message de Jean-Jacques Goldman qui lui proposera de rejoindre la bande des Enfoirés. Ah non, Black Friday, moins 20% sur votre prochaine commande à Allo Pizza.
Ouais.
Manon Mariani, en attendant que vos talents de chanteuse, car ils existent. D'ailleurs, on devrait repasser l'extrait de votre fameux single.
Non, c'est bon, maman, en plus,
on
dit que je chante mal tout le temps.
On l'écoutera tout à l'heure.
Manon, faux. Ça rien à
en attendant que Jean-Jacques Goldman vous appelle, ouais. Vous revenez sur une première fois survenue en 1989.
Bah oui, on connaît Nirvana pour son album iconique Nevermind, mais avant ça, ils ont sorti un premier album en 1989, il s'appelle Bleach. Il est moins connu et pourtant, il va permettre au groupe de se faire une renommée et devenir le groupe grunge de l'époque.
Face à vous, Zazie, il n'a jamais eu beaucoup de tendresse pour les communistes. Alors forcément, quand on lui a dit de trouver un événement marquant en 89, il n'a pas hésité. Moi, j'aurais dit la sortie du tube Bioman par Bernard Minet.
Ouais.
Toute une époque. Non, vous, oui. Quentin, vous avez choisi la chute de Ceausescu en Roumanie, voilà. À travers les archives de l'INA.
Oui. En décembre 1989, un pays se soulève, la Roumanie. Je vous emmène par le son des archives de l'époque dans ces journées où le régime de Ceausescu a vacillé, où une foule s'est mise à dire non et où l'histoire a basculé en direct, Mathieu.
1989, à travers les archives de l'INA, mais aussi à travers les souvenirs forcément flous, vu qu'elle est née en 94, de Mao Drama, qui nous rejoindra en fin d'émission. Mais pour l'heure, on est avec celle qui est à la fois une légende de la chanson française, mais aussi du foot français, en tout cas selon Johnny.
Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football ?
J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Je l'adore comme joueur.
Quel joueur, hein. Avant-centre de l'équipe de France pendant de nombreuses années, Zazie.
Non, mais c'était énorme.
Zazie est avec nous pour ce Zoom Zoom Back spécial 89, année du premier spectacle des Enfoirés. Alors, pour ce premier concert, on l'a dit, 5 artistes étaient sur scène. Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Eddie Mitchell, Michel Sardou et Johnny Hallyday. Vous avez 25 ans à l'époque, Zazie.
Je ne sais pas, oui, un truc
dans
comme
ces eaux-là,
ça. Ouais.
Vous le découvrez comment à la télé, comme tout le monde. Vous vous dites qu'un jour, vous allez être dans les Enfoirés ou pas du tout ?
Pas du tout, parce que je ne savais même pas qu'un jour, j'allais devenir chanteuse.
Ah oui, donc,
c'était un journal intime pour moi, la musique. Donc, ouais. En revanche, moi, je me souviens, avant ça, je me souviens de Coluche en train d'ouvrir les Restos du Cœur, donc un peu avant, c'était en 83, 85, je ne sais pas, avec Jean-Louis Aubert, en fait. Il avait appelé son copain Jean-Louis, parce que les gens n'osaient pas venir. Quand on est dans la pauvreté, on peut avoir une certaine honte, surtout à l'époque où, en plus, il n'y avait pas ce genre d'initiative. Et Coluche, malgré tout, n'arrivait pas à faire entrer les gens dans sa première... Donc il a demandé à Jean-Louis de venir... mais en catastrophe, et il est arrivé avec sa guitare. Et je me souviens de ces images.
Pas sonorisé, a cappella, quoi.
Complètement. Donc, il y avait Coluche qui distribuait les repas, et à côté, il y avait Jean-Louis qui faisait le troubadour et qui chantait n'importe quoi. Eh bien, oui, il y a des carottes. Et c'était génial, parce qu'en fait, c'était déjà au départ, Coluche a toujours bien aimé la musique, il chantait d'ailleurs aussi un peu, cette espèce de lien entre les deux. Voilà.
Mathieu évoquait les 5 chanteurs, donc Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Eddie Mitchell, Michel Sardou, Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'ils représentaient pour vous à l'époque ?
Bah, c'était un peu les mammouths c'était les monuments de la chose. C'était des gens aussi qui se marraient bien et qui surtout étaient très différents. Il y avait des auteurs-compositeurs, il y avait des gens de droite.
Il n'y a plus de gens de droite aujourd'hui dans le Enfoirés.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il y a de tout. Mais c'est ça, en fait. C'était donc apolitique. C'était vraiment un mouvement de solidarité sociale, en fait.
Comment ils se sont retrouvés à faire ce premier concert, finalement ? Je disais que la règle pour faire partie des Enfoirés, à l'époque en tout cas, c'est qu'il fallait pouvoir remplir une grande salle sur son seul nom. Alors, ça a changé.
Oui.
Mais à l'époque, ils ont pris les plus grosses stars et les ont réunis.
Oui, c'était ça. Alors après, c'est venu après le fameux single où Coluche a dit au secours, a appelé son copain Jean-Jacques, qui a dit ok, on va faire un truc. Et c'est très drôle parce que dans le single, dans le refrain, il y avait Johnny qui chantait et vous entendez, on entend quand on le sait, il s'était trompé, il avait dit aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir soif. Donc, comme il y a beaucoup de pistes, on entend d'avoir faim, ni d'avoir froif. On entend un piège.
Mais non
voilà. Si, c'était très drôle. Mais c'est à la suite de ce single, en fait, qu'ils ont pris, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait vas-y, on y va, et on propose ça.
Ce single, la chanson des Restos, c'est 4 ans après la création des Restos du Cœur, c'est devenu un... plus qu'une chanson, vraiment un hymne pour les Français. C'est presque une deuxième Marseillaise, quoi. C'est vraiment une chanson que tous les Français ont dans l'oreille. Qu'est-ce qu'elle représente ?
C'est vraiment l'hymne des enfoirés, mais c'est l'hymne des Restos du Cœur, parce que le texte est vraiment assez concret. À chaque fois qu'on la passe, et moi je donne en quart à ceux qui n'ont rien, voilà, on a cette voix de Coluche qui rappelle pourquoi on est là aussi. C'est pas pour son image ou pour son ego ou parce que ça fait bien de passer à la télé. Il y a de plus en plus d'artistes, donc ça peut être compliqué, c'est des gens qui n'ont pas connu Coluche, mais il y a encore quelques-uns du noyau dur qui gardent cette espèce d'esprit, qui quand ça commence à dire « Oui, mais la bouteille d'eau, elle n'est pas à la température !» au revoir. Et en général, ça se passe vraiment très très bien.
40 ans après sa création, l'hymne des Restos va encore retentir en janvier prochain avec la tournée 2026 des Enfoirés. Zoom Zoom Back revient après, justement, la chanson des Restaurants du Cœur sur France Inter.
Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Elle a composé ce qui aurait pu, si elle nous avait donné les droits, devenir l'hymne de cette émission. Mais non, Sa générosité, elle la réserve au Resto du Cœur. Zazie, membre historique de la troupe des Enfoirés, est avec nous cet après-midi pour zoomer sur 1989, date des premiers concerts des Enfoirés. Alors Zazie, des artistes qui s'engagent pour des causes humanitaires, c'était finalement assez naturel dans les années 80. Il reste les restos aujourd'hui, mais ce genre d'engagement était assez, j'ai l'impression, courant à cette époque.
Oui, je pense qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux encore, et donc moins ce côté un peu lynchage immédiat dès que vous aviez une espèce d'opinion. Ça a aidé aussi sûrement à ça. Après, il y a toujours eu un rapport à la chanson française, pas tout. Il y en a qui sont où c'est « Pourquoi tu m'as quitté, je t'aime ». Et puis il y a aussi des gens qui sont un peu plus engagés. Dès qu'on commence à être un peu honnête, on est engagé maintenant, ça me fait beaucoup rire. Mais 89, je voulais juste dire ça, ça n'a strictement rien à voir, parce que c'est drôle, hein, parce que vous me laissez la parole. C'est l'année du RMI. Ah. Ça veut dire que de revenu minimal d'insertion. Oui, ça a tout changé pour les Restos du Cœur. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste une banque alimentaire. Ouais. Et après, c'est devenu... Ils ont multiplié, si vous voulez, ça a changé complètement les choses. Ils ont été obligés d'avoir ces programmes d'activité, d'accompagnement, de réinsertion. Puisque revenu minimal d'insertion, c'était ça. Et donc, ils se sont retrouvés avec d'autres activités. Donc, c'est 89, c'est vraiment aussi...
Une année charnière.
C'est une année complètement charnière. Et puis, c'est la loi Coluche aussi, en 89.
C'est quoi la Coluche? On peut le rappeler, voilà.
Exactement, ça défiscalise les donateurs. C'est pas mal de le rappeler, les gars, si vous voulez donner...
c'est important. La force de Coluche aussi, c'est d'avoir réussi à réunir autant d'artistes sur un single. En 89, c'est Goldman qui réunit autant de gros artistes sur une scène. Sans ça, ça aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt, les Restos du Cœur. S'il n'y avait pas eu cette rentrée d'argent et du single et des tournées.
En tout cas, les Enfoirés sont un groupe de gens plus égocentrés, puisque les artistes, on est un peu obligés d'être comme ça, mais qui n'en sont pas moins généreux et qui sont utiles. Parfois, nos carrières, notre métier peut manquer de sens au niveau collectif, au niveau humanité. On est content, on gagne notre vie avec, on a des concerts, on est généreux, mais là, c'est vraiment aussi un rendez-vous qui, nous, d'une manière personnelle, donne du sens à ce qu'on fait. Et en plus, fait une vitrine géniale par rapport au Resto du Cœur. Les Enfoirés, c'est pas tant d'argent que ça par rapport aux donateurs dans toute l'année des Restos du Cœur. Mais c'est cette espèce de vitrine collégiale où on nous voit ridicules, on nous voit grossir, on nous voit vieillir, on nous voit avec des enfants, on nous voit faire les cons, on nous voit faire des trucs ratés. Et je pense que ça, les Français sont sensibles à ça, quoi.
Y a souvent, ce qui est mis en avant, c'est le lien qui unit les artistes et les bénévoles. Ça, c'est souvent vendu comme ça par la tournée des Enfoirés. Est-ce qu'il est réel, ce lien? Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il est éphémère chaque année au moment peut-être des concerts? Et après, est-ce que pendant l'année, vous êtes en lien avec des bénévoles des Restos du Cœur, enfin, pour parler très concrètement?
Alors, moi, non. Ça a pu m'arriver parce que j'avais des gens qui me demandaient donc de les mettre en contact avec... voilà, moi, j'avais pas le temps. Et c'est ça aussi, en fait, c'est que sans complexe, on n'est pas doué. Enfin, c'est comme si on demandait à des gens qui bossent aux hôpitaux de Paris, si on nous demandait, nous, d'aller mettre, faire des piqûres aux gens et de les soigner. Non, on ne sait pas faire ça. On n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire ça. En revanche, on sait faire notre métier et le mettre au service de... Dans des carrières, alors pour moi c'est pas très grave maintenant, mais ça fait une semaine, plus les répétitions, plus les concerts. Ça peut être important, en fait, ce temps-là.
C'est un temps qu'on donne aux autres, quand même.
Voilà, c'est un temps qu'on donne aux autres et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Voilà.
C'est vrai que Jean-Jacques Goldman crée une véritable ambiance de colo de vacances, de colonie de vacances.
Oui, alors que c'est le pire gars de colonie de vacances.
Alors comment il faisait?
Non, en fait, il est en même temps généreux, en même temps taiseux, et il avait cette chose aussi où, si je sais pas, par exemple, si un chanteur sortait de scène en disant « ça va, c'était bien là », mais avait mis son niveau de voix à fond, qui faisait que quand on chante ensemble, les autres s'entendaient plus, faisait en rigolant « c'était affreux ». Donc, en fait, une espèce de force quand même tranquille pour injecter ça, réinjecter du collectif Pas de
faire redescendre les égos un petit peu.
Exactement.
Qui c'est qui chantait trop fort? C'est Patrick Fiori, vous pouvez nous le dire aujourd'hui. Il chante toujours trop fort, Patrick.
L'autre.
Patrick, oh mon Dieu.
Ça balance.
On l'embrasse. Pourquoi vous invitez Zazie? Moi aussi, j'ai participé aux Enfoirés. S'insurgeait Quentin, lui, en conférence de rédaction l'autre jour, même que j'ai aidé Thomas Pesquet à réparer son iPad qui buguait. Si vous voulez, je peux vous raconter l'anecdote à l'antenne, elle est dingue. Non, avions-nous répondu comme un seul homme. Car l'anecdote,
si,
on la connaît,
non,
elle n'est pas dingue, Quentin. Elle n'est pas dingue, elle est même nulle. Quentin, au lieu de nous raconter vos aventures dans les coulisses des Enfoirés quand vous travailliez pour France Bleu, faites-nous plutôt écouter l'archive, selon vous, la plus marquante de 1989. Je crois que c'est en Roumanie que ça se passe.
La fin d'une dictature, l'image de ce 22 décembre à Bucarest, la capitale roumaine, où la foule a envahi tout à l'heure le palais présidentiel et s'est livrée à une véritable mise à sac de ce symbole du pouvoir dictatorial de la famille Ceaușescu.
En 1989, le régime de Nicolae Ceaușescu s'effondre sous son propre poids. Depuis des décennies, le dictateur roumain impose un régime marqué par la surveillance généralisée, la censure et la propagande. L'économie est à bout de souffle. Pendant que les Roumains font la queue pour un litre d'huile, le couple Ceaușescu entretient un véritable culte de la personnalité délirant, transformant Elena en savante du peuple et lui-même en génie des Carpates. Ce qui va mettre le feu aux poudres. Le 16 décembre 1989, c'est la défense d'un pasteur visé par les services secrets à Timișoara, à l'ouest du pays. La foule se soulève, l'armée tire, mais la peur bascule et les émeutes deviennent une insurrection. Quand certains soldats finissent par rejoindre les manifestants, le régime se fissure complètement. Le soulèvement gagne jusqu'à la capitale, Bucarest, le 21 décembre. Le régime en place tente l'organisation d'un immense rassemblement devant le palais présidentiel pour contrer ce mouvement. Sous les portraits géants du dictateur, des milliers de Bucarestois écoutent le dirigeant fulminé contre les agents de l'étranger qui tentent de menacer l'ordre socialiste jusqu'à ce que des sifflets, des cris surgissent de la foule, fassent voler en éclats cette mise en scène. Nicolae Ceaușescu, les yeux écarquillés, comprend ce qui est en train de se passer.
Aceasta ca o
Le dirigeant, levant la main droite, essaiera de ramener le calme, mais ne va pas y parvenir.
Dans les rues de Bucarest, les Roumains n'en croient pas leurs oreilles. La radio officielle vient de tomber. Et c'est par la voix de Mircea Dinescu qu'ils apprennent que Nicolae Ceaușescu, le tyran détesté, vient de quitter le pouvoir. Dehors, l'histoire sanglante de la Roumanie est encore en marche. Elle n'a fait pour l'instant qu'un trou dans le drapeau roumain, un drapeau où les symboles du pouvoir communiste ont été systématiquement arrachés. Dans l'ancien palais royal, ils sont des centaines de milliers à écouter les proclamations du nouveau comité de salut national. Pour s'adresser à la foule, le premier orateur n'utilise pas le terme « tovarech », camarade, mais « fratsilor », mes frères, et c'est immédiatement le délire.
Dans le même temps, Nicolae et Elena Ceaușescu tentent de fuir en hélicoptère dans un premier temps, puis en voiture, mais se font vite arrêter. Le 25 décembre 1989, le procès des Ceaușescu ressemble à ce que tout le monde voulait éviter, une mascarade. Tribunal improvisé dans la caserne où ils sont détenus, procès d'1h30, dont 55 minutes seront filmées.
Un lieu inconnu, une pièce d'une terrible banalité en guise de tribunal. Le couple Ceaușescu face à ses juges. Buté, arrogant, le dictateur déchu ne cesse de refuser toute légitimité à ses accusateurs. Je ne reconnais aucun tribunal, je ne reconnais que la Grande Assemblée nationale.
Et le dictateur entre ensuite dans une violente colère, la dernière.
Lecture de la sentence, à l'unanimité des voix, le tribunal militaire extraordinaire condamne les accusés à la confiscation des biens et à la peine de mort.
Une sentence exécutée immédiatement et montrée à la télévision. En France, on le verra sur la 5.
Les soldats, ivres de sang, vont littéralement mitrailler en rafale la cour de la caserne où se déroule l'exécution. Les murs sont criblés d'impacts de balles. Une longue flaque de sang part de la tête d'Elena Ceaușescu. Son mari, Nicolae, est tombé à quelques mètres sur les genoux, touché mortellement par une balle dans le front. Un médecin légiste s'approche d'Elena, l'examine soigneusement et constate le décès.
En 9 jours à peine, un mois après la chute du mur de Berlin, la Roumanie a basculé. C'est l'un des soulèvements les plus fulgurants de la fin du bloc de l'Est et aussi l'un des plus médiatisés. Le monde entier a vu un pouvoir s'effondrer en direct. Une chute spectaculaire, mais pas sans zone d'ombre. 9 jours qui ont renversé 24 ans de pouvoir absolu dans un écho direct à l'effondrement du monde communiste qui, de Berlin à Bucarest, se fissure à toute vitesse cette année-là en 1989.
Merci Quentin. Zazie, 1989, on le disait, année charnière pour les Restos du Cœur, mais aussi pour le monde tout court. J'imagine que vous avez encore en tête ces images. Moi, j'étais tout petit, je me souviens qu'elle m'avait terrifié.
Extrêmement bien. Et c'est vrai que, bon, on aimerait que le monde aille mieux.
Oui, on ne peut pas dire que ce soit le cas, mais...
C'est pas forcément. Mais je me souviens, parce que c'était assez, assez dingue, la manière dont ça a switché en 8 secondes, alors que c'était vraiment, de toute manière, une dictature depuis longtemps. Et je me souviens aussi de ces images. Alors, moi, je n'avais pas vu l'exécution, mais j'avais vu, enfin, comme tout le monde, les deux après, quoi, qui étaient l'un côte à côte. Ils avaient encore une espèce de vision ou un espèce de truc. Enfin, c'était très marquant parce que ça s'est passé sur un laps de temps très court. Donc, je m'en souviens extrêmement bien. Ouais.
1989, aujourd'hui dans Zoom Zoom Back, c'était donc le premier spectacle des Enfoirés. On est toujours avec Zazie qui a participé 29 fois, j'ai compté, aux Enfoirés. Est-ce que vous y serez encore l'année prochaine? Évidemment.
Ben ouais.
2026, vous serez là. Alors, tous les ans, il y a des surprises, il y a des nouveaux entrants dans les Enfoirés. Qui décide de tout ça? Sans nous dire qui sont les nouveaux qui vont arriver.
Ben, je pense que c'est surprise, ceux qui produisent l'émission. Alors, ils sont plusieurs. Il y a évidemment Anne Marcassus, Yves Maillet, enfin, les gens qui sont autour, qui décident, voilà, à plusieurs, en se disant, tiens, qui on peut faire rentrer cette année? Et alors, on n'en sait rien du tout.
Mais vous, en général, à l'heure où on se parle, vous n'en savez rien du
non,
tout.
J'en
vous-même,
sais rien.
Vous ne savez pas qui va nous rejoindre.
Non,
vous rejoindre.
Non. Je l'apprends en fait au moment où on répète, c'est-à-dire en gros une semaine avant d'être sur scène.
Ah oui, le secret, bien gardé.
Parce que de temps en temps, on voit les distributions et on voit marqué, alors voilà, Jean-Charles. Ah, c'est qui Jean-Charles? voilà, donc...
Il y a des artistes qui refusent.
Oh, j'en suis sûr, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est pas... Il faudra leur demander pourquoi. Je pense qu'il y en a qui s'y sentent pas dans ce collectif. D'autres qui ont peut-être un peu peur de que ce soit la télévision ou qu'il y ait une espèce de récupération. Alors que c'est vraiment... Enfin, moi, j'invite les gens à laisser aussi cette partie-là de leur ego de côté, quoi.
Oui, mais il y a ce côté peut-être un peu... Parfois, on entend ça, le côté un peu kermesse qui peut faire peur à un artiste qui va essayer de soigner l'image de sa carrière, de tout gérer, etc.
C'est pas l'espace pour ça.
Voilà, c'est ça. Donc, ils font peut-être bien...
Il faut se faire malmener. Enfin, je dis pas qu'on est obligé de porter une perruque ridicule. Enfin, moi, je me souviens d'une perruque, j'avais la tête de Louis XIV, quand même. Bon, c'est, ça esquinte un peu, et ça froisse pas que l'ego. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de chanter, on est triste. Il y a de temps en temps des gens avec qui on peut moins s'entendre, que ce soit musicalement ou humainement. Ouais. Mais en fait, c'est aussi un espace génial pour ça, parce que ce serait quand même un bon exemple du monde, d'essayer de comprendre l'autre et commencer par nous. Parce qu'en fait, on a tellement de corps de métier. Les décos font un boulot de dingue. Le son, la technique. Et c'est aussi un des rares moments où on peut côtoyer tout ça. On le fait pour nos tournées, mais avec cette proximité, quoi. Si quelqu'un se sent mal dans son corps ou se met à éclater en sanglots parce qu'il vient d'accoucher, évidemment qu'il va y avoir une espèce de poule et tout, quelque chose qui ressemble à l'humanité. Si déjà on n'est pas capable, aux Enfoirés, d'avoir un petit exemple d'humanité, c'est quand même ça le but, c'est pour ces humains qui ont besoin de remplir la gamelle, quoi.
Jusqu'à son départ, après la tournée de 2016, c'est Jean-Jacques Goldman qui gérait tout sur les Enfoirés. Qu'est-ce que son départ a changé dans l'organisation? Est-ce que l'ambiance un peu magique comme ça est restée la même, ou il y a un truc qui manque depuis le départ de Jean-Jacques Goldman?
Bien sûr qu'il manque. L'homme manque, sa personnalité, son charisme, quelqu'un qui est rassembleur aussi, quelqu'un qui fait qu'on hésite un peu moins aussi à faire partie des Enfoirés, parce que un grand respect, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a fait, c'est quand même Jean-Jacques Goldman, quoi. Au début, moi, j'avais très peur que ça change quelque chose, et en fait, non, parce que je pense que il a suffisamment... Déjà, je pense que de temps en temps, il appelait pour savoir comment ça se passait, aider un peu, voilà, il y avait quand même encore une capillarité, mais on s'est dit, s'il n'est plus là, faut que chacun d'entre nous soit un mini Jean-Jacques.
Oui, personne n'a repris vraiment son rôle de meneur.
Non, il y a des gens qui sont très charismatiques et qui font beaucoup de bien. L'arrivée de Michael Young, par exemple.
Ah oui, il est trop investi.
Oui, parce que c'est en même temps c'est un petit Coluche, c'est-à-dire qu'il a ce côté grossier, un peu punk, etc., dans l'humour, où il va loin. Et en même temps, je peux vous dire que c'est un cœur à pattes, ce gars. Donc, et un charisme pour les afters, par exemple, les afters... Alors, mais c'est important les afters. Mmh. Les afters, ça veut dire que les nouveaux qui arrivent et qui sont comme ça, ouais. les comédiens qui ne savent pas trop chanter ou qui ont peur, bah, voilà, Michael Youn va dire, eh ben, tiens, viens là, François-Xavier, faire nos trucs en espagnol. Et ça va faire du lien, en fait. Ouais.
À suivre, elle qui a grandi avec comme modèle musical Laurie va mesurer l'écart qualitatif qui sépare sa génération de la mienne en nous parlant d'une première fois mémorable en 1989. Il sera question de Nirvana. Manon Mariani vous raconte juste après Alani, This is Why sur France Inter.
This is why when you tell me that you love me, something you said oh 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do. When mixed with an I love you, you make me feel like I can only die. You make me hot in December. Even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the I'm scared.
On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, chantait Maxime Leforestier. Il aurait pu ajouter, on ne choisit pas non plus son époque. Et c'est con, parce que Manon, qui est une mélomane, aurait certainement préféré grandir avec Nirvana qu'avec Alizé. Manon, vous revenez sur une première fois survenue en 1989.
Le 15 juin 1989, un CD sort en silence. Pas de marketing, pas de radio, pas d'article. Juste une pochette en noir et blanc avec trois silhouettes floues, cheveux dans le vent en plein concert. On voit même pas les visages des membres du groupe. L'album s'appelle Bleach et c'est le premier du groupe Nirvana. À ce moment-là, le mouvement grunge est en pleine émergence aux États-Unis, mais il reste encore très confidentiel. Il y a seulement quelques groupes qui tirent leur épingle du jeu, comme Tad ou Mudhoney. Ils sont tous originaires du même endroit, Seattle, qui était alors le vivier du rock alternatif et de cette nouvelle scène explosive. C'est là-bas qu'ont lieu tous les concerts de cette nouvelle génération d'artistes underground, des enfants terribles du rock qui veulent casser les codes de la vague hippie en proposant des sons plus bruts, plus punk, avec des guitares saturées et des paroles provocatrices. C'est à ce moment-là, en 1987, que le jeune Kurt Cobain, 20 ans, veut lui aussi se lancer dans la musique. Il cherche à monter son groupe de rock, mais il n'arrive pas à trouver des potes réellement motivés. Il connaît le milieu, mais n'en fait pas encore réellement partie. Il va alors faire la rencontre de Chris Novoselic, guitariste, lui aussi fan de musique. Les deux appellent leur groupe Nirvana. Mais ils n'arrivent pas à trouver un batteur qui soit dans leur état d'esprit punk. Jusqu'au jour où un ami leur présente Chad Channing, qui devient le troisième membre du groupe. En 1988, il commence alors à donner des petits concerts à Seattle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça envoyait déjà pas mal. C'est juste justement leur énergie et leur présence scénique, oui, on a la limite, qui va séduire le label Sub Pop, le label indépendant de Seattle qui était the place to be pour les artistes de la scène locale. Ils signent Nirvana sous la houlette du producteur Jack Endido, considéré à l'époque comme le faiseur de groupe grunge du moment. C'est dans son studio d'enregistrement que Nirvana commence à enregistrer Bleach le 24 décembre 1988. La location du studio va leur coûter $600. À l'époque, ils n'ont pas d'argent et ils vont devoir demander à un de leurs potes de leur avancer. Résultat, l'album est enregistré et mixé à peine en une trentaine d'heures. Il va donner des morceaux puissants comme About a Girl, qu'on a entendu, School ou Blue, qui imposent déjà le style du groupe. L'origine du titre de l'album Bleach vient d'un poster de prévention adressé aux usagers d'héroïne qui conseillait de bleach your works, de désinfecter leurs seringues avec de la javel pour lutter à l'époque contre la propagation du virus du sida. Kurt Cobain a repris le mot dans un geste à la fois provocateur évidemment, mais surtout symbolique. Le problème, c'est que leur label Sub Pop ne croit pas vraiment au succès de l'album. Ils décalent sa sortie plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas les fonds suffisants. Et quand ils décident de le sortir enfin, du coup en juin 1989, seulement 5000 copies sont mises sur le marché. Ce qui va faire la différence, ce sont les concerts. Nirvana part en tournée aux États-Unis et à la fin de l'année, grâce aux bouche à oreille et notamment aux radios des universités, le groupe va commencer à se faire connaître. Les critiques sont aussi hyper enthousiastes. Billboard dit même que l'album signe les humbles débuts d'un nouveau groupe qui va être à la tête d'un nouveau genre musical et gagner sa place dans l'histoire de la musique.
Bien vu.
J'ai envie de dire, et croyez pas, c'est bien dire, évidemment. En avril 1980, le batteur iconique du groupe Dave Grohl arrive. L'année d'après, Nirvana va connaître son apothéose avec ça.
C'est Zazie qu'on entend derrière, hein. C'est signal dans une version tout à fait inédite. Un crossover Nirvana Zazie. Inédit.
On adore.
Aujourd'hui pour vous sur France Inter.
Gardez-nous des petits pour la science.
La machine est lancée, évidemment, et grâce à leur succès avec Nevermind, Bleach va connaître une seconde vie, puisque l'album sera évidemment réédité. En tout, il se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde.
3 millions d'exemplaires, c'est encore 10 fois moins que le nombre d'albums de... qu'a vendu Zazie, qui pourtant refuse toujours de nous céder les droits pour notre émission Zoom Zoom Zen. Pourtant, c'était parfait. Zazie, Nirvana, ça vous rappelle aussi des souvenirs?
Bah oui, parce que forcément le grunge. Alors moi, si vous voulez, je suis née dans les années hippie, entre guillemets, ouais. Même si on était moins à la maison, mais il y avait quand même ce truc-là, c'est-à-dire on avait tous du patchouli et on s'habillait en violet, quoi. Et donc c'était un peu la suite logique, c'est-à-dire la suite vénère, on a vu les mouvements punk, etc., même si j'étais très jeune. Et là, d'un coup, on avait fromage et dessert en même temps. Ils étaient bien vénère, et en même temps il y avait ce côté un peu lâcher prise, on s'en fout comment, alors là, c'était bien étudié quand même,
c'était étudié,
du décoiffé puissant, mais évidemment les chansons du deuxième album en tout cas, puis la pochette quoi, avec cet enfant en mode bébé nageur, il y avait un espèce de truc qui était rafraîchissant. Et, mais que moi qui étais familier aussi quelque part, c'était comme si on avait réuni plusieurs sons que je connaissais, quoi.
Zazie avec nous cet après-midi pour évoquer 1989. Pourquoi ? Ben parce que c'était la première tournée des Enfoirés. Zazie, la 41e campagne des restos a commencé la semaine dernière. C'est quoi le mot d'ordre cette année ?
Comment vous dire ? Ben, c'est... Moi, enfin, pour répondre à votre question, sans faire la politique qui ne répond pas, en fait, à chaque fois que j'ai des doutes en me disant est-ce que ça a du sens tout ça ? Est-ce que c'est vraiment une association qui doit faire ça ? Est-ce que ce ne serait pas le gouvernement, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire que c'est un tel ou bidule ou tel ministre, etc., qui doit le faire. Oui, bien sûr, ça doit aider, ça doit légiférer, mais je pense aussi qu'on a tous un rôle à jouer dans la solidarité des uns envers les autres. Nous, on est plutôt, la plupart du temps, enfin moi je gagne bien ma vie, très bien ma vie, c'est pas mal de se rendre utile. Donc le mot d'ordre, c'est aussi que vu la tête du monde, et vu le nombre de gens qui arrivent dans une extrême précarité, à chaque resto du cœur, moi au début, à chaque enfoiré, évidemment, on voit les patrons, j'en ai vu plusieurs, et celui-là, là, à chaque fois, je vais le voir, je lui dis, alors ok, on en est où ? Il me dit, bah écoute, l'année dernière, on en était 1,3 million bénéficiaires, on en a 161 millions de repas donnés, et malheureusement, il y a une croissance de 4% encore de gens, et des gens qu'on ne veut pas refuser, quoi, voilà. Oh, ça calme. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est pire que l'année dernière, hein, au niveau des gens. Et donc, il va y avoir plus de gens qui ont besoin de bouffer, entre autres, et, ou d'un appart, ou de quoi que ce soit. Et qu'on sait aussi pourquoi on est là, à cause de ça.
Vous dites, je ne vais pas vous répondre comme une politique, et c'est assez rare, en fait, de la part d'un artiste, quelqu'un qui s'engage. Vous vous êtes engagé à gauche depuis un moment. En 2012, vous aviez voté Mélenchon, puis Hollande. Mais en 2022, vous avez révélé avoir voté Macron aux deux tours. Est-ce que Macron, c'est la gauche ou... Vous avez dit
ah non, pas du tout. Non, non. Ça, alors moi, je fais partie des traumas de Chirac, deuxième tour, où on était quelques-uns, avec Jamel Debbouze en l'occurrence, à se dire, on est con, on n'a pas voté. Donc attention, au secours, il y avait Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc on a tous pris très très vite une carte d'électeur pour voter, pas forcément pour, mais pour voter contre ce qui maintenant est le Rassemblement National. Mélenchon, c'est pas bon. Mélenchon, je le trouve complètement taré. Mais par contre, j'aime bien. Enfin, à l'époque, il était rafraîchissant. Écoutez, un peu philo, un peu jovial. Bon, Macron, j'ai pas du tout voté pour Macron. J'ai voté pour que dès le premier tour, on ait éventuellement pas l'extrême droite. C'était complètement raté d'ailleurs.
Sur l'extrême droite, Zazie, vous avez certainement vu les sondages cette semaine. Jordan Bardella gagnerait la prochaine présidentielle, quel que soit le candidat face à lui.
C'est
pas là, mais qu'est-ce que ça peut inspirer, ce genre de choses, quand on se bat depuis des années pour certaines convictions, c'est un peu décourageant.
Qu'ils nous disent ça un peu à tous les sondages, et que on espère compter sur une espèce de sursaut des Français, qui, même s'ils sont tellement mécontents qu'ils peuvent, je comprends moi, je disais, dans mes concerts, moi je vais faire des concerts dans les bastions, entre guillemets, ou les endroits où il y a plus de RN font plus de résultats. Parce que je trouve que c'est intéressant, faut aller comprendre les gens, quoi, pour comprendre pourquoi ils peuvent se retrouver à voter des trucs comme ça. Mais bon, bah, si c'est ça, on va recommencer à la base, quoi. Pas quitter la France, évidemment, pas déclarer forfait, et puis recommencer à parler des fondamentaux, quoi, sur l'humanité et le vivre ensemble.
Prochain album, peut-être, Zazie ? Je sais que vous avez gagné tellement de fric avant, mais il y a quand même un prochain album qui est en préparation, peut-être.
Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je préfère le chemin au résultat. J'adore le résultat, hein, soit dit en passant. Mais en préparation, je ne peux pas du tout vous donner de date, ce n'est pas une rétention
inutile. Mais vous n'êtes pas en studio ?
Un petit peu.
Ah, un petit peu déjà, quand même.
Oui, un petit peu, mais je n'ai pas tout fini du tout.
Pas tout fini. Voilà. Bon. Et les droits de Zen, on peut s'arranger ou c'est,
Non,
c'est
mais
zen.
Vous savez ce qu'on fait de temps en temps, j'essaie de faire très vite, mais de temps en temps, pour les restos, pour les enfoirés, quand, par exemple, il y a Je suis un homme qui passe, on leur propose que sur ce support-là, on donne les droits.
Ah oui,
je sais que Francis Cabrel le fait, moi je le fais, enfin, il y en a quelques-uns qui font ça.
Ah, sur le CD.
Ah, oui. Sur le support sur en le question, support. En fait, on ne touche pas nos royalties. Voilà, ça donne un peu plus de sous.
À suivre dans Zoom Zoom. Elle, s'il faut mettre une armure du XVIIe siècle pour rejoindre la troupe des enfoirés, elle le fera, car elle est prête à tout pour vaincre la pauvreté et booster sa carrière. Bonjour Mao Drama.
Bonjour, aujourd'hui je vais parler du concept de solidarité, ce qui va être un sacré challenge coincé entre Mathieu Noël et Cyril Lacarrière, donc un Suisse et un homme qui rêve de l'être.
La chronique de Mao Drama, c'est juste après un autre tube de 89 de B-52's Love Shack sur France Inter. Love Shack. I got me a car.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Même votre mère, quand vous lui avez demandé si elle donnait de l'argent au clochard, aurait répondu « Bien sûr, je te laisse toujours la monnaie quand tu vas me chercher un café ». Je pose donc la question, où est donc passé notre sens de l'empathie, Mao Drama ?
Je ne sais pas. En 2023, Patrice Douré, le patron des Restos du Cœur, alertait « S'il n'y a plus de dons, on peut fermer d'ici 3 ans ». Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de thunes, donc il n'y a plus de services publics, et du coup c'est au tissu associatif de prendre le relais de l'État. L'État, c'est devenu ce mec qui fait une cagnette litchi, mais pour la Saint-Valentin de sa propre meuf. Et t'es là, mais Quentin, c'est à toi d'offrir la journée spa massage duo à Amandine. Du coup, il va falloir compter sur la solidarité. Or, alerte enlèvement. Elle est portée disparue. Elle aurait été vue la dernière fois à l'Assemblée nationale lors du rejet de la taxe Zucman. Lors de sa disparition, elle portait un sarouel et des sandales en pneus. Signe distinctif, un tatouage au bas du dos en sanskrit dont elle croit qu'il veut dire espérance, mais qui veut dire Chizna Nalai. La solidarité, on en parle beaucoup, on la pratique très peu. C'est un petit peu comme le cuni, j'ai envie de dire les mecs. Allez-y, personne n'est mort en buvant la tasse. La solidarité, c'est tiol comme un antique vitrail dont les couleurs jadis éclatantes se dissolvent sous l'haleine âcre du temps et de renoncement collectif. Oh. Ah, on est sur qui, hein ? Je suis bifacial ! C'est Zoom Zoom Zen ou c'est le masque et la plume ? On ne sait pas. Alors, pour être sûr qu'on n'oublie pas le mot solidarité, il y a même une journée qui est dédiée depuis 2004, au même titre qu'il y a la journée du droit des femmes ou la journée de la princesse. Ça, c'est moi qui ai inventé. C'est une journée où tous les mecs qui nous croisent, ils doivent nous mettre des Louboutins aux pieds en disant « Waouh, elles te vont trop bien !» Et après, on dit « Oh, merci Quentin Tarantino, tu as le droit de les chouiller maintenant, mes souliers. »
Elle est folle.
Mais après, il y a des meufs, pas besoin de journée spécifique pour que ce soit des reines. Zazie, regardez ce que vous avez fait tomber. Regardez votre couronne. Mais non.
Et moi, premier degré.
Merci, c'est grave.
Je suis vachement bon
quelle
public.
Actrice.
Alors du coup, il y a des sociologues qui avancent des solutions. Des cours d'empathie aux primaires. À la rentrée 2024, il y avait même Gabriel Attal qui en proposait.
Ça existe au Danois, au Danemark.
Mais j'y viens, on essaie ou quoi?
Incroyable,
on va avoir nos règles ensemble, mais si je il faut que tu me tapes dans la main, par contre, Zazie, vraiment, c'est dingue. Non. Alors, pourquoi des cours d'empathie? C'est pour calibrer nos cerveaux et ne pas dire bah forcément, tu te douches pas, tu sens pas bon, t'as pas de travail, il faut passer ton gna 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 gna. Alors, ça peut paraître incongru, mais quelle meilleure cible pour des cours d'empathie que les êtres les plus cruels de la création, c'est-à-dire les gosses de 6 ans? Il y a quand même un enjeu, il faut comprendre que Zazie et moi, si on est devenus artistes, c'est parce qu'on n'a jamais autant détruit nos égos que dans la cour de récréation. Parce que moi, un mec qui commente sous mes vidéos vulgaires, pas drôle, ça peut un peu me laisser, mais vraiment toujours moins que Victor Roisy en CE1. J'essayais de lui dire que je le kiffais. Je lui dis, tu sais, c'est marrant, moi aussi, mon papa, il s'appelle Victor. Il me dit, tu sais, c'est marrant, ma maman aussi, elle a un nez bizarre.
C'est moche.
Au Danemark, c'est moche. Les enfants, ils suivent depuis leurs 6 ans des cours d'empathie et de bienveillance depuis 93.
Et de gestion des conflits.
Et c'est incroyable, depuis 30 ans... harcèlement divisé par 3. Mais non, mais si. Alors, je me dis, avant qu'on l'expérimente de façon nationale, déjà autour de cette table, on va faire un cours de bienveillance et d'empathie.
C'est bien.
Quentin, tu vas répéter après moi. Mao, merci d'illuminer cette salle. Tellement spontané. Ton QI m'impressionne.
Faut pas se tromper. Hein.
Dude. Zazie, à vous maintenant.
Oui.
Bien sûr, Mao.
Bien sûr, Mao.
J'accepte ton invitation. À venir voir tes dernières aux Folies Bergères. Les 2 et 3 décembre prochains.
Je suis à Narbonne, ta gueule.
Franchement, ça aurait été une teuf. Ça va être incroyable.
2 et 3. Attends, je reviens le 2. J'ai un concert pour les sinistrés des incendies.
Mais tu reviens le 2, il y aura Julie Gaillet dans la salle, ça fera 2 reines. Ça m'étonne pas, ça tape. Bon, bref. Merci pour votre empathie. Retrouvons-vous là en 89. On chantait pour la première fois. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim et d'avoir froid. Eh bien, aujourd'hui, 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et parce qu'une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible, se soucier de ceux qui souffrent, c'est se soucier de tous.
Merci beaucoup, Mao Drama, pour ce moment d'empathie. Partagé. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom. Pas besoin de faire votre promo, vous l'avez habilement faite dans la chronique avec la complicité de Zazie. Merci beaucoup Zazie d'être passée nous voir cet après-midi.
Merci à vous.
S'il y avait le plus beau souvenir ou le moment le plus fou que vous avez vécu avec les Enfoirés, en coulisses ou sur scène, je ne sais pas, qu'est-ce que vous retiendriez?
Ce serait les moments où on doit remplacer des gens, c'était il y a une vingtaine d'années, ouais. Donc il y avait 3 couples. Et donc il y avait Jean-Jacques, moi, on devait faire un petit bout de Jean-Jacques Goldman, un petit bout de chanson, ouais. D'autres gens, sauf que c'était des comédiens et qu'ils étaient tous en tournée. Et qu'on monte sur scène en se disant, bon, c'est pas grave, on va remplacer. En fait, on s'est retrouvés à chanter les trois trucs des trois couples avec Jean-Jacques Goldman, mort de rire. Donc ça, c'était un bon souvenir. De temps en temps, il y a des choses comme ça. Voilà.
Des beaux souvenirs, des enfoirés, ça continue. Nouvelle édition qui arrive en 2026. Merci beaucoup, Zazie. Et cet album qui arrive aussi, il est en préparation, il ne faut pas être pressé, il va arriver. Petit rappel, cette année, le spectacle s'appelle La Balade des Enfoirés. 7 concerts du 13 au 19 janvier 2026 à l'Accor Arena de Paris. Il y aura plus de 50 artistes sur scène, les anciens et les nouveaux. Évidemment, l'an dernier, les Enfoirés ont permis de récolter 13 millions d'euros pour les Restos du Cœur. Si vous voulez donner pour les restos, c'est sur restosducœur.org. Merci encore, Zazie. Merci à tous, les amis Manon, merci Mao, Quentin. Merci à toute l'équipe de Zoom Zoom, Florence Gimala, Claire-Sophie Collet, Pierre Courat, Jad Bellag, Pénélope de la Péchardière et Gérald Darnaud. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana. À la technique, Laurent Baudouin. Nous, on se retrouve demain, 16h, pour une compilation haute en couleur des meilleurs moments de Zoom Zoom Zen. Et puis lundi, en direct, attention, le Gai Savoir prend du galon. On zoomera sur celui qui pourrait faire son grand retour. En tout cas, c'est Emmanuel Macron qui veut ça, le service militaire. Et attention, amis Poitevine et amis Poitevin, la bande de Zoom Zoom débarque bientôt dans votre ville. Le France Inter Tour s'arrête à Poitiers. Le vendredi 12 décembre, une émission en direct au TAP, la scène nationale de Grand Poitiers. Venez nombreux et joyeux, les réservations sont ouvertes. Ça se passe sur maisondelaradioetdelamusique.fr. D'ici là, excellent week-end à l'écoute d'Inter. Zoom Zoom Zen.